Europe Soir Weekend,
Christophe Pallé.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?
Eh bien, il est dans votre radio ce soir, le bonheur. Jusqu'à 19h40, dans Panorama, on va vous donner des recettes pour être heureux tout l'été. Comment passer un bel été? Comment réussir ses vacances si vous avez la chance d'en prendre? Bref, comment goûter au bonheur? Avec nous ce soir, Catherine Aliotta, sophrologue et présidente de l'Institut de formation à la sophrologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine Lesure, bonsoir.
Bonsoir.
Psychiatre, spécialiste des émotions. Hein, vous venez de faire paraître la détresse psychique, on en parlera. Et puis Isabelle Payot, bonsoir.
Bonsoir.
Psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Et vous occupez notamment beaucoup des enfants, des adolescents, des familles.
Hein. Oui, aussi.
On en parlera. Alors d'abord, une première question. Est-ce que l'été est une saison propice au bonheur? Qui veut répondre?
Alors, je veux bien essayer. Il y a une raison qui me paraît évidente, c'est qu'il y a de la lumière, en fait. Et qu'on sait que la lumière donne un peu d'énergie. Hein. Ça a été montré par le biais, alors je ne vais pas faire des grandes théories, par le biais des rythmes circadiens. On sait qu'en hiver, on a une tendance à hiberner, à se sentir un peu apathique, à plus manger, à grossir.
On peut l'utiliser d'ailleurs l'hiver avec la luminothérapie.
Oui, voilà, exactement.
Hein. Et comment alors? Comment prendre un maximum de lumière, si je suis votre
idée? En se levant tôt le matin.
D'accord. Décaler ses journées pendant les vacances.
Voilà.
Plutôt que de faire la grasse mat, vaut mieux se lever tôt et
voilà,
se coucher tôt.
Et profiter de la lumière.
C'est votre conseil. Non, mais très bien, merci. C'est les conseils qu'on a promis de donner ce soir à vous tous qui nous écoutez.
Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, puisque le bonheur, c'est la vie.
Alors, mesdames, vous avez un conseil sur la lumière ou même sur l'été?
Sur la question de l'été, moi, je pense qu'il y a vraiment cette histoire de partage. On a envie d'aller en terrasse, boire un verre. Il suffit de regarder les terrasses, là, actuellement, de sortir ou d'être si on est à Paris, sur les quais de Seine. On va échanger plus avec les autres. On est un peu plus libre. On a moins de manteaux sur le dos. On a moins d'affaires. On se sent plus léger. Et donc, c'est vraiment propice. L'échange, c'est propice au bonheur. On a envie de revoir les amis. On a envie d'organiser des barbecues. Donc, le bonheur, c'est aussi vraiment dans la gourmandise quotidienne et dans l'échange. Les amis, la famille, c'est ça qui nous met du baume au cœur. On sait que dans le bonheur, il n'est jamais un bonheur où on est tout seul. Ça n'existe pas. Hein.
Oui, pour vous, Isabelle Payot, le bonheur, c'est l'échange avec l'autre.
Ben, en fait, ce n'est pas juste pour moi. Les études en psychologie positive ont montré ça, qu'à partir du moment où on est en lien avec les autres, on crée une connexion, on est des animaux sociaux, on a vraiment besoin de l'autre. À ce moment-là, on va se sentir plus heureux. Si on peut aider quelqu'un, on se sent heureux d'aider plus que... d'être tout seul et de kiffer tout seul, j'allais dire, ça a moins d'intérêt.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous disiez que le fait de porter moins de vêtements, ça pouvait aider aussi. Isabelle Aliotta.
Catherine Aliotta.
Catherine, pardon.
Il n'y a pas de souci. En fait, l'été, ce qui est aussi agréable, c'est qu'on va pouvoir mettre en éveil tous ses sens. En fait, ce qui est important aussi dans le bonheur, c'est de pouvoir capitaliser sur ce qu'on perçoit à l'instant présent pour pouvoir cultiver des petits moments agréables qui vont nous servir, parce que mis bout à bout, c'est ça qui va faire le bonheur. En fait, le bonheur, c'est pas un gros morceau, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est plein de petits moments mis bout à bout qui nous permettent à un moment donné de se dire bah, finalement je me sens bien. Et l'été, bah, c'est sympa. Sensoriellement, il se passe plein de choses. Il y a le soleil, il y a la chaleur du soleil sur le visage, mais il y a aussi les oiseaux qui chantent, il y a aussi parfois des fleurs dans les arbres, le bruissement justement du vent dans les feuilles. Voilà, il y a toute une sensorialité qui est souvent plus importante que ce qu'on peut retrouver l'hiver, où la nature est plutôt en sommeil, et nous aussi, on se met aussi plus en sommeil. Et donc l'été a cette particularité-là de pouvoir éveiller nos sens et du coup de capitaliser sur plein de petits moments très agréables.
Mais alors vous, Catherine Aliotta, qui êtes sophrologue, est-ce que les patients qui viennent vous voir, vous réussissez à les réveiller pour qu'ils entendent de nouveau, ils voient différemment
Alors
au gré des saisons?
Oui. En fait, en sophrologie, on va évidemment essayer d'amener les gens à prendre conscience en fait, de ce qui se passe autour d'eux et de réactiver un peu leur sensorialité. Souvent, ils sont très bloqués dans le mental ou parfois très bloqués dans le physique quand ils ont des douleurs. Et donc là, l'idée, ça va être de retrouver un juste équilibre entre les deux et leur permettre justement de leur dire « Mais regardez, il y a plein de choses autour de vous qui se passent super bien. Il y a des choses difficiles, c'est vrai, mais il y a aussi plein de choses agréables. » Et ça, c'est important aussi parce que le cerveau a tendance à stocker évidemment tout ce qui se passe mal, alors que je pense qu'il est important de cultiver ce que j'appelle moi la bibliothèque du bonheur, la bibliothèque du positif, et ça, elle se nourrit quotidiennement par des petits éléments qui sont à la portée de tous, qu'importe notre niveau.
Donnez-nous des recettes. Comment on fait pour le travailler, ça?
Par exemple, je ne sais pas, j'aime bien prendre mon café le matin. Il se trouve que c'est l'été et j'ai la possibilité d'ouvrir ma fenêtre et de me mettre un peu comme ça sur ma fenêtre, même si je suis en ville, hein, et de sentir peut-être un instant l'odeur de mon café, la chaleur du soleil sur mon visage, peut-être la chaleur du café entre mes mains, d'écouter peut-être la ville qui se réveille, ou au contraire la nature qui se réveille si je suis à la campagne. Voilà, de chercher à entendre et à percevoir et à sentir tout ce qui se passe autour de nous au travers de nos cinq sens.
Antoine Le Cire, vous vouliez compléter aussi?
Non, en fait, finalement, je m'aperçois qu'on est assez d'accord tous les uns les autres, puisque d'un côté, je pense aussi que, effectivement, dans l'été, effectivement, il y a la possibilité d'être avec les autres. Hein. Je voulais dire, par rapport à... Il y a une étude assez connue sur le bonheur, l'étude de Harvard, qui a fait un peu couler d'encre il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, puisque c'était une étude qui a commencé en 1938 et qui avait sélectionné 700 jeunes hommes de Boston, issus de deux milieux différents. Ils avaient essayé de voir quels étaient les facteurs favorisaient le bonheur. Et en fait, au bout de 70 ans d'études, j'exagère un peu, mais oui, au bout de 70 ans d'études, le facteur qui est sorti en tête, c'est d'être avec les autres. C'est ceux qui se sentaient heureux, c'était ceux qui étaient en échange. Alors maintenant, on a montré aussi que le fait de pouvoir être généreux, de faire confiance, le fair play, tout ça favorise le bonheur. Hein. Et c'est se retrouver finalement avec les autres. Bon, on a bien de vivre la période du Covid et de ces confinements. Et on a bien vu que finalement, l'absence de relations directes avec les autres créait quand même une certaine tristesse, empêchait de ressentir le bien-être du bonheur.
Alors justement, depuis le confinement, les Français ont pas mal augmenté leur consommation de somnifères, de tranquillisants. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Qui veut répondre?
Je dirais que depuis la fin du confinement, je ne vais pas donner des chiffres, mais ce que j'ai l'impression quand je rentre le soir effectivement du travail en vélo, je vois les terrasses de café remplies. Alors je me dis, c'est le nouveau somnifère.
L'alcool est le nouveau somnifère, c'est un peu...
Et même d'être avec les autres, comme somnifère, on a aussi un peu de mal.
D'être avec les autres, c'est-à-dire on voit tous les jeunes qui se retrouvent et qui sont...
Et vous, Isabelle Payot et Catherine Aliota, vous avez le sentiment que la consommation de somnifères et d'anxiolytiques réduit ?
Non, ça dépend. Ça serait un portrait qui serait trop chouette. Mais alors, si on veut rester très positif, on peut dire que oui, ça va mieux parce qu'on est à nouveau en contact et qu'on a enlevé les masques. Il y a quelque chose qui est un peu moins anxiogène que ça n'a été. Mais si on parle, par exemple, de la population jeune, des jeunes adolescents et des enfants, on voit quand même un taux d'anxiété qui reste très élevé, pour lesquels on n'a pas de solution immédiate, si ce n'est de leur apprendre à avoir confiance en la vie. Ce qui est un peu difficile aujourd'hui, si on est branché constamment sur des télés, des chaînes info dont je tairai le nom, on a du mal à s'imaginer...
Vaut mieux qu'ils écoutent la radio, vous avez
raison. Oui, finalement. Et on a du mal à s'imaginer que les choses vont aller mieux. Et pourtant, si. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un choix. C'est un choix de regarder la vie d'une certaine façon. On peut voir tout ce qui dysfonctionne, mais on peut voir que dans ce dysfonctionnement, on va trouver des solutions. Moi, je crois beaucoup à ces jeunes qui ont vraiment des idées pour changer la société, pour consommer différemment, pour être heureux autrement avec moins. Donc, ils sont en train radicalement de changer la société de consommation et qui finalement sont plus heureux avec moins. Donc, ça, il y a toujours du bon. Et cette confiance-là, il faut qu'on arrive à la transmettre aux enfants, aux adolescents et même aux plus grands, à ceux qui ont tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein.
Alors, est-ce que l'été, justement, et notamment les vacances, ça peut être l'occasion dans les familles de transmettre cette positive attitude ?
C'est l'occasion de partager, en tout cas. De partager, de faire des choses ensemble, de faire rien aussi, parce que faire rien, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour notre cerveau qui va se reposer, qui va arrêter d'être en cogitation constante, et surtout, en général, en cogitation sur... des choses anxieuses, une anticipation anxieuse comme ça qui travaille. Donc là, on va se poser, on va partager, comme on disait, on va échanger et ça va nourrir notre sentiment d'appartenance, notre sentiment de bonheur, peut-être même notre sentiment d'utilité au sein d'une famille. Donc c'est ça qui va commencer à faire pousser des graines sur le fait que c'est pas si nul quand même, la vie, elle est chouette. Il y a des très bons moments, comme disait Catherine tout à l'heure, et ces moments-là, je vais plutôt les regarder. Je vais plutôt m'attacher à ça, poser mon regard là-dessus, que de poser mon regard sur tout ce qui dysfonctionne.
Alors Catherine Aliota, oui, allez-y.
Oui, j'allais dire, l'été, c'est aussi des moments où parfois, effectivement, les ruminations anxieuses sont évidemment nocives, mais quand on ne fait rien, on laisse aussi émerger des pensées qui sont parfois très agréables pour nous. Oui. On se rend compte parfois aussi des valeurs qui sont importantes. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi des périodes où souvent on fait des petits bilans, des mini-bilans, comment ça s'est passé pour moi ces 6 derniers mois, tiens, comment je me sens au sein de ma famille, quelles relations j'entretiens finalement maintenant avec mes enfants. Et tout ça, ça fait émerger. Le Covid a aidé ça à prendre conscience aussi que parfois des valeurs se sont réveillées, des préoccupations positives se sont réveillées. Et puis tout ce questionnement-là permet aussi, quand on a un peu de temps, c'est de capitaliser sur « mais quelles sont mes ressources ?» Mmh. C'est-à-dire que là aussi, c'est un travail qu'on peut permettre de faire aussi. C'est de se dire à un moment donné « ok, bon, si je m'affranchis de tout, de toutes mes obligations, qu'est-ce qui, en moi, est une valeur et une ressource que je peux utiliser pour me permettre de me sentir mieux tous les jours ?»
Alors, on parlait tout à l'heure des somnifères. Est-ce que ça peut être l'occasion, justement, de se rééquilibrer, de diminuer un peu les doses ou de...
Oui, alors en fait,
on parle du bonheur et on évoque les somnifères. C'est un peu contradictoire. C'est un peu, quand j'ai été invité, je me suis dit, moi, avec la détresse, qu'est-ce que je viens faire parler du bonheur? Mais je crois qu'effectivement, l'anxieux, moi je connais bien les anxieux, hein, j'en suis peut-être un qui s'ignore, mais l'anxieux, il a du mal avec le bonheur. Bon. Mais quand on n'est pas anxieux, on a accès au bonheur plus facilement. Je crois qu'à la base du bonheur, il y a une chose importante qu'il faut dire, que ce soit le bonheur en hiver, en été, au travail, en famille, c'est qu'il y a une aptitude au bonheur qui se crée dans les 3 premières années, hein, qui se crée par le phénomène...
Entre 0 et 3 ans,
entre
0
et 3 ans.
Ah oui.
Il y a une aptitude au bonheur qui est favorisée par l'environnement dans lequel on est élevé.
Donc il y a une responsabilité de la famille qui est incroyable,
je crois,
qui est
considérable. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même, moi je vois en tant que psychiatre quand même, beaucoup de mes patients, hein, qui ont du mal justement à accéder au bonheur, ces patients qui ont eu quand même durant leur enfance des problèmes avec l'attachement parental. Mais ce n'est pas la majorité de la population. Je crois que la majorité de la population, elle est plus simple, on ne la voit pas. Au fond. Et quand j'évoquais les terrasses de café, ces jeunes dans les terrasses de café, ben on ne les voit pas. Ils vont pas si mal. Mmh. Alors ceux qu'on voit, ils vont moins bien, effectivement. Ceux qu'on voit, ils vont moins bien. Mais
oui, vous, les patients, voilà. Vous voulez dire que vous recevez,
voilà,
c'est ça.
Voilà, ils vont moins bien. Mais il y a une créativité qui est préservée, une vie. Donc je crois qu'il faut avoir en tête qu'il y a malheureusement une frange de la population qui a un accès au bonheur qui est moins facile. Il y a une aptitude qui ont moins.
Isabelle Payot, vous vouliez compléter sur ce thème.
Il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que notre capacité à être heureux, donc le bonheur, notre capacité à être heureux, est à 50% génétique. Alors on se dit, si je n'ai pas tiré la bonne famille, je suis mal, parce que ça fait quand même 50%. Mais 50%...
Excusez-moi, je n'ai pas dit que c'était génétique, j'ai dit que c'était l'environnement familial qui crée ça.
Oui, oui.
Je crois qu'il faut très, très...
Je parle d'une autre étude,
oui,
Antoine. Je parle d'autre chose.
Affrontement d'études, attention, on est passé au débat.
J'entends la question de l'environnement.
Parce qu'on ne sait pas, ça, l'aspect génétique, je suis d'accord. On ne sait
donc,
pas.
Là-dessus, on n'a pas la main, donc voilà, plus ou moins 50%. 10% de notre capacité à être heureux, c'est lié à des conditions extérieures. Donc ça veut dire que si on voit... je ne sais pas quoi, des milliardaires sur leur yacht, ça ne contribue qu'à 10% si on a envie d'être sur un yacht, bien évidemment. Et il reste donc 40% qui sont pleinement à nous, qui se travaillent, qui vont être notre capacité à mettre en place des choses qui nous font du bien, à regarder ce qui va bien, comme on disait tout à l'heure, et à nourrir cette partie-là. Donc ça donne quand même la main largement sur notre capacité d'agir sur notre bonheur individuellement et collectivement.
Alors, autre question, est-ce qu'il faut changer ses habitudes? Est-ce que c'est une bonne stratégie, Catherine Aliota?
Il faut changer ses habits. Si on n'est pas heureux, oui, je pense qu'il faut à un moment donné décider de faire autrement. En fait, le bonheur, ça se décide aussi. Enfin, souvent, moi, j'ai tendance à dire, on peut décider aussi d'être heureux un jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la vie dans laquelle on est ne nous satisfait pas, pour mille et une raisons, je pense que c'est important de se dire à un moment donné, pourquoi, par exemple, je ne trouve plus de sens dans mon travail, ou pourquoi je ne suis plus épanouie quand je suis en famille, ou pourquoi, lorsque je suis en vacances, je m'ennuie. C'est peut-être parce que finalement, je ne me suis pas construit une vie qui correspond à ce que moi, j'ai envie de faire et à ce qui correspond à ce qui me fait du bien. Et souvent, c'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que les gens se créent un univers, parfois en J'explique les réseaux sociaux parce que souvent c'est un élément de comparaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que d'être heureux, c'est ce diktat qu'on me montre là, alors que c'est pas forcément ça le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est peut-être tout autre chose. Finalement, d'être superbe en maillot de bain, j'en sais rien, au bord d'une piscine, avec un cocktail, c'est pas ça moi qui me rend heureuse. Peut-être que moi, ce qui me rend heureuse, c'est de marcher dans la montagne au milieu des chamois. Et bien ça, c'est aussi s'interroger sur ce qui me convient moi, au fond de moi, libéré de tous ces jugements ou de tous ces diktats que je me suis mis, et à partir de là, eh bien, décider effectivement de mettre en place toute une stratégie qui va me permettre de cultiver toutes ces choses qui me rendent heureux. Et juste pour dire, le bonheur, c'est aussi la comparaison avec parfois être malheureux. Oui. Alors, pourquoi Absolument. Je dis ça ? Parce que oui, c'est difficile de se rendre compte du bonheur si on n'est jamais malheureux. Donc là aussi, c'est accepter de ne pas être toujours heureux et de se dire que le bonheur, bah, c'est pouvoir passer par toute cette échelle des émotions, toute cette variation finalement d'humeur qui nous permet à un moment de se dire « Ah là, je suis sur un moment qui est super agréable, allez, je le capitalise. »
Alors, est-ce que l'un des secrets en vacances pour justement goûter au bonheur, c'est pas de se déconnecter ? Vous en parliez tout à l'heure avec les réseaux sociaux.
Oui, ça peut bien sûr être à un moment donné de se dire je me coupe de tout ce qui d'habitude m'oppresse et je passe sur un autre rythme de vie.
Alors c'est très bien, hein, c'est très bien de le dire, mais comment faire ?
Ah, comment faire ? Alors déjà en essayant...
Est-ce qu'il faut faire une déconnexion totale ou alors essayer de garder une heure par jour, 2 heures par jour ?
La déconnexion totale, elle est compliquée parce qu'il y a un moment donné, on peut avoir des obligations. Je pense qu'il vaut mieux se dire, je le fais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans ma journée, je vais organiser mon temps en se disant, bah là, je suis en vacances, donc la grande partie de mon temps, c'est de faire des choses qui me font du bien. Et s'il est nécessaire pour moi, aussi pour m'apaiser le soir et bien dormir, de jeter un œil sur ou de répondre à un mail parce que c'est nécessaire, parce que d'autres choses tournent, eh bien, je peux aussi le faire. Mais dans des moments qui soient évidemment encadrés et volontairement mis entre parenthèses, où on annonce à tout le monde que bah, pendant un temps, on s'accorde ce temps-là, parce que c'est aussi une façon pour nous de nous rassurer, de nous sentir bien.
Oui, parce que se retrouver avec 10 000 mails quand on revient 3 semaines plus tard, ce n'est pas forcément non plus une bonne rentrée.
Tout à fait. Et puis, ce que j'allais dire, les vacances, ça se prépare. Souvent, moi, j'ai tendance à dire, ce n'est pas le dernier jour qu'on prépare des vacances. Idéalement, c'est de pouvoir s'organiser au moins les 15 jours ou 3 semaines avant son départ, en se disant déjà dans l'anticipation de ce qui va se produire.
Je me prépare à partir en vacances.
Je me prépare à partir en vacances. Je n'ouvre pas de nouveaux chantiers qui me demandera d'être hyper présent parce que je ne vais pas pouvoir l'être. Je ne vais pas mettre en place des deadlines que je ne pourrais pas respecter parce que tout ça, ça me fait monter en pression. Et du coup, bah, je passe les 10 premiers jours de mes vacances à faire baisser la pression que moi-même, je me suis mis avec des obligations que j'aurais pu évidemment... dans la mesure du possible, il y a parfois on a des obligations auxquelles on est obligé de répondre, mais il y a plein de fois où on peut aussi commencer à décompresser avant d'être en vacances.
Alors vacances qui vient du latin vacare, comme vous le savez tous, qui signifie être vide, être libre. Comment réussir ces vacances en famille, Isabelle Payot ? C'est plus compliqué ou pas ?
C'est pas plus compliqué, comme disait Catherine, ça se prépare. C'est-à-dire qu'en vacances, ça ne va pas toujours être les mêmes qui vont scoltiner les tâches ménagères, par exemple. Parce qu'il s'agit
comme
pas,
le reste de l'année, non ?
Voilà, il ne s'agit pas de ramener la maison autre part, finalement. Alors, il fait beau, il y a du soleil, il y a peut-être une piscine, mais voilà, c'est, finalement, on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes qui font la cuisine ou la vaisselle, etc. Donc, on va dire, on va expliquer ensemble.
On met un tableau.
Si on ne met pas un tableau, en tout cas, on pose des règles qui est que vraiment, on va tous participer parce qu'on a tous besoin de ces vacances-là et c'est nécessaire pour tout le monde. Donc, quand on fixe ça, quand on fixe ces règles-là, en général, il n'y a pas de souci. Après, on n'a pas besoin de râler. On rappelle juste la règle s'il y en a un qui a oublié et qui s'est endormi sur son transat en disant c'est ton tour d'aller préparer à manger. Donc, c'est simplement de s'organiser et de s'autoriser à ce que tout ne soit pas parfait. C'est vrai que souvent, les parents ont envie, dans la vie quotidienne, que tout soit parfait, c'est timé, on court, il y a les activités. Mais là, il n'y a plus ça. Donc, il va y avoir la montre, mais on ne va pas trop la regarder. Et on va se laisser faire par le temps.
Vous nous conseillez l'été, enfin, surtout pendant les vacances, d'enlever la montre.
Mais oui, il faut enlever la montre parce que c'est si on prend les vacances, la pire des choses, c'est les vacances où on veut absolument optimiser au maximum ses vacances. On revient épuisé. Alors, on a vu plein de choses, mais les gamins n'en peuvent plus. Donc, ça ne sert à rien, vraiment. Donc, on lâche le temps, on lâche la pression, comme disait Catherine. on prend le temps de vivre et on prend le temps de se voir, de se rencontrer, de faire des choses ensemble.
Et l'Internet, alors en vacances, faut-il garder de l'Internet ?
Non, le mieux, c'est de louer une maison au fin fond de la Creuse, où il n'y a pas du tout de réseau.
Mais vos enfants ne viendront plus jamais avec vous ?
Si, si, bah, ils viennent encore et on dit vraiment, je suis désolée, j'étais persuadée qu'il y avait le Wi-Fi, et là, il n'y a rien du tout. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, même une journée, deux, ils vont retrouver les jeux de cartes, les jeux de société, on va se balader, on fait du vélo. Les gamins, dès qu'ils lâchent leur téléphone, ils savent retrouver autre chose. Il ne faut pas croire qu'ils sont complètement addicts à ça. Nous, les adultes, on est peut-être même parfois plus addicts au téléphone et aux réseaux sociaux que les enfants.
Alors, j'ai fait ça en Ardèche il y a 2 ans, mais je peux vous dire que mes enfants à la fin m'ont dit « on n'y retourne plus jamais ». Vous voyez, c'est risqué, c'est compliqué.
Moi, je pense que c'est risqué, mais ce qui est important de se dire aussi, c'est que les vacances, c'est peut-être un moment... Justement pour créer des moments de bonheur et des moments de partage, parce que c'est surtout de ça dont on va se souvenir, c'est aussi d'être force de proposition parfois, de faire des choses en collectif. C'est-à-dire que très souvent dans notre quotidien, on est les parents, les enfants d'ailleurs, peu importe, mais on est chacun dans notre travail, on est chacun dans nos impératifs, on est dans nos quand on est enfant, nos préoccupations avec nos copains et nos copines de l'école, du collège, du lycée, les parents dans le boulot. Finalement, on se retrouve le soir, plus ou moins fatigué, on a plus ou moins envie de partager, parfois plutôt moins que plus d'ailleurs.
Et donc, il faut se faire une liste d'activités ou plutôt se laisser aller ?
Non, je pense qu'il ne faut pas se faire une liste. Il faut se dire à un moment donné, tiens, comment on peut recréer des choses ensemble ? En fait, il y a des jeux qui sont très drôles. C'est-à-dire qu'un temps de piscine, ça peut être très drôle en famille. On n'est pas obligé de nager. La piscine, on peut sauter les uns sur les autres.
Faire des parties de water polo.
Voilà, on peut décider de faire un volet même si on joue mal. On peut décider d'apprendre au petit dernier, j'en sais rien, moi, à faire du vélo à ce moment-là. C'est recréer en fait une dynamique de groupe au sein de la famille.
Et demander à chacun ce qu'il a envie de faire aussi et de proposer. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que le petit dernier voudra aller dans un parc. Bon, tout le monde n'aura pas très envie, mais on ira pour lui.
Eh ben, un grand merci à tous les trois. Vos conseils nous sont précieux. Je vais les résumer en 15 secondes. Arrêter de cogiter, se laisser vivre, respirer, aller vers l'autre, faire un bilan, enlever sa montre et se déconnecter au moins partiellement des réseaux sociaux et puis de l'Internet. Un grand merci. Dans quelques instants, vous allez retrouver comme chaque soir les docteurs du Tour sur Europe 1. Axel May et Richard Virenque pour le Club Tour en direct de Cahors. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez partager votre bonheur tout à l'heure dès 22h sur Europe 1 au micro de Valérie Darmon, appelé le 3921. C'est la libre antenne d'Europe 1. Elle est ouverte, elle vous attend de 22h à minuit. Bonne soirée et très bel été sur Europe 1.